Gloire à Dieu. Alors, être à l'église et expérimenter son onction, bah, je dois dire que c'est juste précieux, quoi. Mais, nous sommes là. Est-ce que vous croyez que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin à travers le message? Parce que si on vient, eh bien, c'est parce qu'on a envie d'apprendre. Ou alors, si on ne peut pas apprendre, il faut se poser des questions. Mais quand on s'assemble, on sait que la parole de Dieu va être donnée avec beaucoup de générosité. Veux-tu te tourner vers ton voisin, celui de droite, celui de gauche, et lui dire « une parole de Dieu peut changer ta vie ». Allez, devant, derrière. Et dis à ton autre voisin, au fait, ouvre tes oreilles parce que tu as vraiment besoin d'être changé. Ah ouais, une parole de Dieu, oui, moi aussi j'ouvre mes oreilles, je veux dire, le nombre de fois où j'entends le message. Franchement, on n'est pas bien à l'église, là. Hein? Ah, moi, je trouve c'est extra, quoi. Je kiffe. C'est une parole hein, que pasteur Elisabeth vient de donner, là. Ah, ça, c'est pour que les jeunes se sentent à l'aise au milieu de nous. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de la semence. Vous rappelez, la parole de Dieu est une semence. Et je vais continuer dans ce sens. Je vous rappelle ce qui est écrit dans Luc chapitre 8, verset 11. Il est dit, alors c'est dans la parabole du semeur, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne cette parole, alors ici il parlait, la semence est la parole de Dieu, et ensuite il dit ce qui se passe dans cette parabole quand la semence est distribuée dans le champ, image 1. Et cette semence-là, eh bien, elle est semée dans le but de produire quelque chose. Puisque la Bible nous dit que la semence est la parole de Dieu, nous savons que ce livre-là est un sac de semences. Et la chose la plus intelligente, c'est que, comme Jésus a dit que ses paroles étaient esprit et vie, là où la mort cherche à sévir dans ta vie, eh bien, il faut que tu saches que tu peux planter quelque chose, planter la parole dans cette situation, parce que la Bible nous dit que la vie engloutit la mort. La vie de Dieu engloutit la mort. Donc, ce que je fais de ce livre va se voir dans ma vie. Ce n'est pas ce que le pasteur fait de ce livre. Ça, c'est une révélation pour certains. C'est ce que tu fais de ce sac de graines, de cette parole que Dieu s'est arrangé pour t'apporter, pour faire venir jusqu'à toi, afin que rien dans ta vie ne puisse être captif de la mort. Rien. Esprit, âme et corps, tout ce qui concerne ta vie. Donc, il faut savoir, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais de ce sac de graines que j'ai? Est-ce que je le garde sur une étagère? Est-ce que je laisse les autres s'en servir à ma place? Ça, c'est pas possible. On peut prier pour que vous soyez libre de comprendre la parole. On peut prier pour que vous ayez la sagesse pour utiliser ces graines, la parole de Dieu, mais le fait de semer la parole de Dieu dans votre vie, à vrai dire, ce qui va produire le plus, c'est ce qui sort de votre bouche. Parce que comment est-ce que l'on sème cette parole? Comment est-ce que l'on va semer cette semence divine qu'est la parole de Dieu par la parole? Pour ça que tout à l'heure, bien, je revenais sur ce chant en disant « Dieu règne quand je règne ». C'est-à-dire quand moi je vais semer cette parole-là, eh bien, cette parole va donner l'occasion à Dieu de régner, parce que c'est sa parole. Maintenant, tout à l'heure j'étais en train de penser à cela. Quand on sème, qu'est-ce que l'on a en vue ? Est-ce que l'on a en vue juste des grains, des graines qui sont en terre ? Est-ce que quand un agriculteur, parce que ça c'est un principe qui est sur terre, donc tout le monde peut s'en servir, hein, de semer la parole. Notre parole est une semence dans notre propre vie. Pour être sûr que ce soit une semence incorruptible, il faut que nous mettions la parole de Dieu dans notre bouche et que nous semions cette parole dans notre vie. Mais est-ce que quand un agriculteur sème son grain dans son champ, il a hâte, il pense au germe qui va tout d'un coup changer la couleur de son champ? Est-ce qu'il dit « Oh là 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 là, je sème, mais alors qu'est-ce que j'ai hâte de voir ces grains germer ?» est-ce qu'il est en train de dire « Oh là là, j'ai hâte de voir ce champ qui de marron prend la couleur verte parce que je vois des pousses ?» Non, il pense à quoi ? Il pense à ce champ de maïs. Quand il va semer, il ne pense pas aux étapes, mais il pense au résultat final. Et le Seigneur, en nous ayant confié la parole de Dieu, qui est pleine de promesses, pleine de paroles qui viennent de Dieu, qui ont été consignées par écrit, par ses disciples, par ses prophètes, ces promesses sont des graines que l'on sème dans notre vie. Mais il faut se demander quelle moisson est-ce que je veux obtenir. Et c'est à nous de faire le travail. C'est à moi de prendre cette parole et de la semer dans ma vie, de la semer dans tout ce qui concerne, par exemple, la santé physique. C'est à moi de parler la parole de Dieu sur mon corps. C'est à moi de parler la parole de Dieu, ce que Dieu dit de ma santé mentale. La Bible dit par exemple que la mémoire du juste est en bénédiction. Je n'ai pas l'intention de perdre la mémoire. Déjà, scientifiquement, on sait que c'est faux. On ne perd pas sa mémoire. Mais je n'ai pas l'intention non plus de l'utiliser moins en vieillissant. Je n'ai pas l'intention. Je n'ai pas l'intention de perdre en force. Je n'ai pas l'intention de manquer de biens matériels. Je n'ai pas l'intention d'être moins généreuse en vieillissant. Je n'ai pas l'intention. Au contraire, la Bible nous dit que nous allons de gloire en gloire. Ce qui veut dire que plus on avance vers la sortie, plus on doit avoir une gloire qui est supérieure dans tous les niveaux de notre vie à celle que nous avions 10 ans avant. C'est-à-dire que le Seigneur voudrait que quand on quitte cette terre, les gens nous disent « qu'est-ce qu'on la regrette celle-là, dis donc ?» Parce que la Bible nous dit que nous devons être si bénis que nous laissons un héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. Tu parles d'une gloire. La Bible n'a jamais dit qu'en avançant dans des vieux jours, ça doit se transformer en pauvres jours. Ce qui est vieux n'est pas dans l'esprit, ce qui est vieux a à voir avec un vêtement que nous portons et qui s'use. Bon, là je suis en train de dévier là. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Alors, c'est vrai que nous venons à l'église parce que nous avons envie d'apprendre à vivre en tant que chrétien. Vous êtes avec moi ? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le. Ah ah. Alors, déjà le fait que c'est écrit, on devrait le savoir. Mais en plus, quand Dieu insiste lourdement et qu'il nous dit « sachez-le », mes amis, il vaut mieux qu'on se débrouille pour le savoir. C'est-à-dire que nous lisions en prêtant attention. Il est dit « sachez-le, celui qui sème peu moissonnera beaucoup. Et celui qui sème peu moissonnera abondamment. » C'est ce que certains pensent. Certains se disent « si je sème beaucoup, alors, oh, moi, tu sais, il n'y a jamais rien qui marche pour moi. Je veux dire, j'ai la chkoumoune, comme ils disent. C'est la malchance pour les gens du Nord qui nous écoutent par Internet. Traduction. Et ils se disent, moi, tu sais, il n'y a jamais rien qui marche dans ma vie. Je vais te dire, j'ai tant fait dans la vie et je n'ai pas encore moissonné. Bon, non seulement la Bible nous dit il y a un temps, mais continue à semer ces paroles dans ta propre vie et je peux te dire exactement ce que tu vas moissonner dans 10 ans d'ici, malgré les semences nombreuses que tu es en train de distribuer à droite et à gauche. La Bible nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Alors, il nous est dit dans la Genèse qu'il existe toutes sortes de semences et que les semences que nous avons sont des semences qui se reproduisent selon leur espèce. C'est-à-dire que si je sème des grains de tomates, je ne vais pas récolter des poireaux. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Et parce que nous savons que Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, nous devons choisir les semences que nous sommes en train de semer dans notre vie. Les semences sont quoi ? Ben, les semences, la Bible nous dit, si tu veux une moisson divine, tu sèmes la parole parce qu'elle est divine. Si tu veux une moisson divine, sème des choses qui sont spirituelles. Si tu veux une moisson charnelle, sème pour la chair. Nos pensées sont des semences. Il y a des gens qui sèment, qui acceptent d'entretenir une semence corruptible, une semence charnelle. Vous savez quoi ? C'est une loi. Vous allez moissonner, la Bible dit, pour votre chair, c'est-à-dire vous allez moissonner. Ce qui appartient à la chair, et ce qui appartient à la chair est corruptible et mortel. Si vous voulez voir des fruits différents dans votre vie, semez en vous des pensées qui sont des pensées de Dieu. Nos actions sont des semences. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais qui sont des semences. Si je me rends compte que je me suis trompée de semence et que j'aurais jamais dû le faire, qu'est-ce que je fais ? Vite fait, je sème autre chose. Il y a un silence qui est royal. Vous qui nous écoutez par Internet, c'est assez impressionnant. Mais selon la loi divine, ça n'est pas celui qui moissonne, qui a... Personne ne moissonne ce que quelqu'un d'autre a semé. Personne. Ça n'existe pas. Vous dites, oui, mais tu sais, pourtant, moi, il y a des bonnes choses que j'ai faites. Et regarde un peu ce que l'un ou l'autre m'a fait. Mais ce n'est pas une moisson, ça. Ce n'est pas une moisson. La moisson ne provient que de ce que nous avons semé. Et la Bible nous dit que Dieu est celui qui fait croître. Sinon, nous sommes en train de traiter Dieu de menteur et nous disons, je sème et Seigneur, tu as fait croître dans le champ d'un autre. Moi, j'ai fait du bien et regarde, c'est un autre qui est béni. Non, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Le diable voudrait nous faire croire cela de manière à ce que nous changions nos paroles, que nous semions des semences de confusion et pour de bon, on ne récolte pas ce que l'on aurait voulu voir. Mais la Bible nous dit que le genre de semence que nous semons dans notre vie, ce que je parle sur mon corps, est ce que je vais moissonner. Aussi simple que cela. Il y en a qui disent, dès qu'ils ont un petit bobo, oh là là, tu sais ma grand-mère, je vais te dire, la fille avec de l'arthrose, c'était absolument terrible. Et, j'ai mal. Tu vas voir, avec le bol que j'ai, je vais avoir de l'arthrose, et même avant elle, avant son âge. Ben, tu sais quoi? La Bible nous dit que nous avons ce que nous disons. Ça n'est pas ton voisin qui va avoir ce que tu dis concernant ta santé. La mémoire, c'est la même chose. Apparemment, quelqu'un qui a besoin d'être édifié au niveau de sa mémoire. Dès que j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus de rien, mais il y en a qui n'arrêtent pas de le chanter, ça. Vous savez, la personne qui a chanté cette chanson pendant je ne sais combien de temps, j'aimerais savoir dans quel état est sa mémoire aujourd'hui. Quelquefois, les gens chantent. Ils aiment tellement la mélodie qu'ils oublient les paroles qu'ils sont en train de semer dans leur propre vie. Vous savez, il y en a un qui n'a pas arrêté de chanter « Je suis malade ». Comment ? Malade. Ben, notre Serge Lama, il a été très malade, sur le point de mourir. Combien d'années a-t-il passé malade? Ça a été sa moisson, parce qu'il a ensemencé sa vie avec des graines de maladie. Et la Bible nous dit, celui qui sème. Alors, il y en a qui disent, ben moi, c'est justement, tiens, tu me rends service parce que moi, je ne parle pas. Je ne suis pas quelqu'un qui parle. Je suis quelqu'un qui, au contraire, dit rien. Je regarde. D'accord. Ben, c'est très simple. Dans ce monde, parce que depuis que le Seigneur a donné cette loi de semer et de récolter sur cette terre, eh bien, les choses ne se sont pas passées comme Dieu aurait souhaité qu'elle se passe, c'est-à-dire que le péché est entré dans le monde et depuis, la malédiction est sur cette terre. Donc, y a des maladies, il y a des épines, il y a des ronces, il y a des bouleversements climatiques, toutes sortes de choses comme cela. Les animaux sont violents les uns avec les autres. Nous mangeons les animaux maintenant. Végétalien, je suis désolée, mais c'est la réalité sur cette terre. Et la malédiction est sur cette terre. Et parce que la malédiction est sur cette terre, eh bien, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que les épines et les mauvaises herbes poussent. C'est-à-dire que même si tu choisis de ne rien dire, de ne pas parler la parole de Dieu, quelque chose va pousser dans ta vie, et ce ne seront pas des semences, ce ne sera pas une moisson de bénédiction, une moisson de paix, une moisson de santé, par défaut. Il y aura une moisson de maladie, de confusion. Autrement, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rester passif. Et quand on est dans une situation difficile, vous savez, les gens, quelquefois, ils sont toujours en train de parler du diable. Oh, le diable a fait ci, le diable a fait ça. Et franchement, le diable n'en fait pas autant que ce qu'on l'accuse de faire. Il y a suffisamment de chair sur cette terre pour qu'il y ait de problèmes. Le vrai combat, quand nous sommes devant une difficulté ou quand nous sommes dans des moments difficiles, quand quelqu'un est dans la maladie, quand quelqu'un est dans le manque, quand quelqu'un est peut-être en affaire avec quelqu'un qui est très agressif et qui a envie de détruire votre entreprise, la plus grande difficulté, c'est de garder les yeux sur la moisson. La plus grande difficulté est de se dire, qu'est-ce que je vais semer dans cette situation, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux voir? Comment? Quelle est la fin à laquelle j'ai droit? C'est-à-dire que nous, les êtres humains, eh bien, on est appelés à vivre comme Dieu. Le livre de Job nous dit que dès le commencement, Dieu annonce la fin. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sème. Dieu sème sa parole afin qu'à la fin d'une situation, il ait la moisson qu'il a voulu. Dès que l'on entend un diagnostic médical, voilà, monsieur, vous avez telle maladie. Immédiatement, dès le début, qu'est-ce que l'on fait? On prend un verset de la parole de Dieu et on dit, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je commence à semer cela dans ma vie et je dis que je n'ai jamais vu le juste oublié et que je finirai mes jours fort, conformément à ce que la parole de Dieu me promet. Et dès le début, j'annonce la fin. Et il y a quelque chose qui m'épate avec le Seigneur, c'est sa capacité à créer le futur. Nous, et je dirais surtout en France, dans certains pays, on apprend à penser beaucoup plus au futur. On apprend à travailler à notre futur beaucoup plus qu'en France. Ça, c'est quelque chose, j'aime beaucoup mon pays, mais je regrette qu'il manque cette dimension dans notre pays. Donc les gens vivent, et surtout quand on est juste financièrement, eh bien on vit au jour le jour. Beaucoup de personnes ont des difficultés à se dire, eh bien dans 10 ans, voilà ce que j'aurai, matériellement parlant. Dans 10 ans, voilà, sauf quand les gens ont des entreprises, qu'ils ont fait des écoles de commerce, et là ils apprennent à travailler avec un plan, et ils apprennent à penser à leur futur. Mais en général, les gens ne savent pas travailler en vue de leur futur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous prenons ce sac de graines qu'est la parole de Dieu, et que nous prenons le temps de se dire, ok, mon futur, qu'est-ce que je connais que Dieu veut pour mon futur? Ce matin, je conduisais en venant ici et j'étais en train de déclarer ce qui concerne le futur de l'Église, la bonne nouvelle. Mais très souvent, les gens ont les yeux sur le champ, sur une terre qui est nue, sur une terre qui n'a rien produit ou qui n'a pas produit assez. Et ils parlent ce qu'ils voient au lieu d'utiliser cette semence de la parole de Dieu comme un investissement et dire « je l'investis dans mon futur ». Qu'est-ce que tu dis sur ton futur? Qu'est-ce que tu dis? Comment est ton futur? Oui, mais il ne s'agit pas de répondre à cette question quand on est tous ensemble à l'église. Il s'agit de ce que tu dis quand il n'y a personne autour de toi. Comment est ton futur dans tes pensées? La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça n'est pas vrai quand les gens disent « Ouais, tu sais, j'ai dit ça parce que tu m'as poussé à dire cela. » Ça n'est pas vrai, mes amis. Ça n'est pas vrai. Il se trouve que quand il y a eu une situation pressante, finalement, ce qui était dans le cœur est ressorti. C'est exactement comme un citron. Tu le presses, il n'y a que ce qu'il y a dans le citron qui sort. On est sur la Côte d'Azur, La bouche parle de l'abondance du cœur. Même si tout autour de toi est sombre, même si rien n'est comme tu voulais, si la semence de la parole de Dieu a été plantée dans ton futur, eh bien, tu continueras à garder les yeux sur ce futur-là, sur ta moisson. La parole, la semence contient ta moisson. Elle ne contient, ce que tu sèmes n'est pas la moisson de quelqu'un d'autre. Peu importe à nouveau ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens disent de nous, leurs paroles n'ont pas la puissance d'affecter ta vie à moins que tu ne permettes à ces paroles de devenir une semence en toi. Et là, alors oui. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il est dit « Car nous sommes des collaborateurs de Dieu ». Alors, et vous êtes le champ de Dieu. Collaborateur, collaborateur, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire œuvrer avec Dieu. On n'est pas des collaborateurs du style business comme aujourd'hui. Ce sont des gens qui coopèrent avec Dieu dans son plan. Et la Bible dit que nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut obtenir une moisson de ta vie. Et pour cela, eh bien, il a besoin que tu reçoives les semences de la parole de Dieu dans ton cœur. Vous avez l'image numéro 3. J'ai mis les images avec les versets qui correspondent, hein, pour aérer un petit peu. Tu répètes après moi, je suis le champ de Dieu. Dieu veut semer dans mon cœur ses semences de vie. Parce qu'il veut une moisson de ma vie. C'est-à-dire que légalement, tu as le droit d'être en bonne santé. Légalement, Dieu a pourvu à tous tes besoins. Ça, c'est un fait dans l'esprit. Légalement, tu as le droit à tout ce qui est nécessaire pour ta vie sur terre et pour ta relation avec Dieu. Légalement. Il se trouve que entre ce qui est vrai dans ton esprit, ce qui est vrai dans le royaume spirituel, il faut que ça se manifeste dans cette dimension. Et pour que cela se manifeste dans cette dimension, eh bien, c'est-à-dire que quand la parole de Dieu se manifeste, c'est une moisson, c'est-à-dire c'est dans cette dimension. La moisson de Dieu pour ton corps, c'est que tu sois en bonne santé. La moisson de Dieu pour ta vie, c'est que tu termines ta vie en ayant, sur terre, en ayant fait son plan, en ayant réalisé ses rêves pour toi. Qu'est-ce que le plan de Dieu à ton égard ? Ben, c'est un rêve qu'il a pour toi. Dieu rêve à ton sujet. Et ce rêve, il est caché où ? Dans sa parole. Ici, dans la Bible, sa parole est consignée par écrit, et également dans les mots, dans les paroles que Dieu te donne, te concernant. Quand tu rêves de quelque chose concernant ta vie, tu rêves d'avoir cette entreprise qui est florissante, tu rêves d'accéder à tel poste, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mots que Dieu t'a donné sous forme de pensée. Ce sont des semences. Qu'est-ce qu'une pensée ? Une pensée est une semence. Mais, tant qu'elle est sous forme de pensée, elle est dans un sac. Comment vas-tu faire pour t'en servir ? Eh bien, ce rêve que tu as, peut-être concernant ta famille, concernant ton couple, concernant ton travail, concernant l'Église, j'espère que vous avez un rêve concernant l'Église, que l'équipe pastorale n'est pas la seule à avoir un rêve concernant l'Église. Ben ça vient d'où ? Ça vient de ce que Dieu a semé en nous, et ce qu'il veut, c'est que nous parlions, que nous ensemencions notre vie d'église, que nous ensemencions le champ de notre vie privée, que nous ensemencions notre famille, que nous ensemencions notre carrière. Alors, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, je vous le lis. Alors, ce verset-là, il est vraiment fort. Il dit la mort, gardez cette image, juste garde cette image, va pas plus loin. Je vais juste lire le verset. Là, ce que l'on voit à l'écran, ce sont des salades. Il est beau ce champ, hein. Chaque semence a reproduit selon son espèce. Ce ne sont pas des semences de tomates qui ont été plantées là. Rien qu'à à jeter un œil, rien que ce qui est visible, écoutez-moi bien, ce qui est visible nous révèle ce qui a été planté, le genre de graine qui a été plantée. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie que tu n'aimes pas? Hein? Voilà. Certains sourient, disent-ils. Certains, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont sourire. D'autres sourient plus du tout. Tout le monde sourit. Montrez-moi vos dents et je ne saurai pas qui est concerné par quoi. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'ici, rien qu'en voyant ce qui est visible, nous révèle ce qui a été planté. La Bible nous dit, gardez cette image, dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort qu'il y a dans notre vie, même si c'est quelque chose qui nous est arrivé, quelqu'un nous a fait du mal, quelqu'un nous a porté préjudice au travail, l'économie n'est pas bonne, voilà, il y a une forme de mort, il y a un virus qui est passé, il se trouve que j'étais fatiguée, mon système immunitaire n'était pas suffisamment fort et hop, mon corps a reçu ce virus. Une forme de mort sévit. La Bible nous dit que rien que pas en parlant, je peux remplacer ça par la vie. Vous savez, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, grâce à la médecine, je suis en vie. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe et je remercie le Seigneur d'avoir partagé la connaissance médicale avec des hommes, des femmes. Et quand j'étais enfant, j'en ai eu besoin et je suis extrêmement reconnaissante. Mais si on ne fait pas attention, on peut être tellement habitué à s'appuyer sur la médecine que pendant ce temps, on oublie que les paroles que nous prononçons sur nous empêchent même le travail de certains médicaments. Notre santé ne dépend pas, quoi que ce soit qui arrive, notre santé ne dépend pas de ce qu'il y a dans ce monde, notre santé dépend de ce que nous disons sur nous-mêmes. La mort est au pouvoir de notre langue. Encore une fois, ce qui est visible révèle ce qui a été semé. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie? Change de semence. Mais très souvent, on croit que juste une imposition des mains va régler le problème. Une imposition des mains, comme je disais tout à l'heure, est un coup de pouce que le Seigneur nous donne. Mais ça ne règle pas le problème. Ça va juste nous redonner un coup d'espoir, un coup de souffle, et on se dit « Allez, allez !» Oui, je vais prononcer les bonnes paroles sur moi. Je vais prononcer les bonnes paroles sur mon travail. Je vais prononcer les bonnes paroles sur mon pays. Je vais prononcer des paroles de vie dans mon couple. Je vais prononcer des paroles de vie sur ma santé. Je vais prononcer des paroles de vie dans mes relations, etc. La mort et la vie. Combien de fois nous ne sommes pas concernés par ce que l'autre a dit? Oh, si tu savais ce qu'ils ont dit de moi au travail. Ma question est, qu'est-ce que toi tu dis? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il nous est dit, vous rappelez dans Marc chapitre 11, il est dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais très souvent, on prie pour quelque chose, on est devant le Seigneur, on s'adresse à lui, on prononce des paroles de vie, on sort de la prière et on se maudit soi-même. Le diable n'a pas beaucoup de travail à faire. Les semences que nous investissons dans notre vie se suffisent à elles-mêmes parce que c'est une loi. C'est une loi divine qui marche pour tout le monde, on n'a pas besoin d'être chrétien pour cela. Question, vois-tu ton futur? Qu'est-ce que tu dis de ton futur? Est-ce que tu vois ton futur malade, tremblant, avec l'Alzheimer? Hein? Moi, c'est pas le mien. Je vous dis tout de suite, c'est pas le mien. Et personne de ma famille, ça, on le déclare. Personne de ma famille n'aura cet Alzheimer. Personne. Oui. Pasteur Elisabeth dit, quand les symptômes viennent, qu'est-ce que tu dis? Et c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Le plus grand combat n'est pas contre le diable. Le diable est quelqu'un de vaincu. Qu'est-ce que l'on a à avoir peur de quelqu'un qui est vaincu? Franchement, c'est... Mais en revanche, quand les symptômes sont là, quand le relevé bancaire arrive, qu'est-ce que tu sèmes à ce moment-là? C'est là où il y a le grand combat. Parler les bonnes paroles de vie, semer la vie dans une situation où il y a la mort qui pointe son nez. Semer la vie dans une relation qui est difficile. Semer la vie quand tu es en train de chercher tes mots. Semer la vie quand tu es en train de te pourrir les poumons avec la cigarette. Au lieu de dire « je ne m'en sortirai jamais », sème la vie. Je suis libre. Je suis libre. Je suis complètement libre de toute addiction. Certains veulent le déclarer une fois qu'ils sont libres. C'est-à-dire qu'ils veulent récolter une moisson avant d'avoir semé. Ça ne marche pas. Vous savez, je pense qu'un des plus gros chocs que j'ai eu en arrivant au Seigneur, c'est de réaliser combien j'étais responsable de ma vie. Et nous sommes dans un pays où tout le monde devient responsable de tout le monde. On a tout le monde à prendre en charge. Je sais, c'est énorme. On a tout le monde à prendre en charge. Et il y a juste quelque chose qui ne va pas, parce que ça n'est pas la pensée de Dieu. Chacun a un champ. Notre cœur est le champ de Dieu. Notre vie est le champ de Dieu. Et dans mon champ, je sème la parole de Dieu et je récolte ce que j'ai semé. Si je n'ai pas voulu semer la parole de Dieu, par défaut, les mauvaises herbes vont pousser. La Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ou aucune parole corrompue. Il y a tellement à dire sur le sujet que... Ok, allez, je vais avec cela. Je pourrais passer tout le restant de l'année à prêcher sur ce sujet-là. Jacques chapitre 3, on va voir comment le Seigneur voit les semences. La puissance de nos paroles, il la compare à autre chose. Dans Jacques chapitre 3, versets 1 à 4, il est dit « Ne vous mettez pas tous à enseigner mes frères ». Donc c'est vrai que ceux qui sont appelés à enseigner enseignent, ou quand on a compris quelque chose, on devrait l'enseigner à ceux qui sont ouverts. Ça c'est normal. Mais il y a parfois des gens qui cherchent à être des enseignants. Ils ne sont pas appelés à être des enseignants, mais ils veulent enseigner. Et le Seigneur nous dit, vous savez avec quelle sévérité nous serons jugés. Je serai jugé, mais pas besoin de me juger, je serai jugé par Dieu. En fonction de ce que j'enseigne. Sur les motifs qui m'ont poussé à enseigner telle ou telle chose. Mais il est dit, ensuite verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de mûr. Quelqu'un qui est capable de filtrer ses paroles, quelqu'un qui est capable de choisir ses paroles. Encore une fois, c'est facile de choisir ses paroles quand tout va bien. Le gros combat, c'est de choisir ses paroles, de choisir ses graines avec précaution quand ça va mal. Vous savez, vous vous rappelez de ce verset là qui nous dit qu'il y en a qui vont semer en riant, qui vont récolter avec joie, vous vous rappelez? Mais si vous remontez ce psaume là, le début de la phrase, c'est ceux qui... Allez, sème avec larmes. C'est-à-dire, qui a dit qu'il fallait toujours, qu'on pouvait toujours semer avec joie? Oui, il y a des moments, quand la situation est tendue, quand vous avez mal dans votre corps, quand vous en avez assez d'entendre quelqu'un qui frappe à votre porte pour réclamer de l'argent, à ce moment-là, il faut choisir les semences. Même s'il y a des larmes qui coulent, on choisit les semences et on les parle dans notre situation. On les lance dans notre situation parce qu'on a les yeux sur la moisson. Et quand la solution arrive, quand le miracle arrive, alors là, on peut danser. Alors là, on peut chanter. Ce n'est pas difficile d'avoir la joie. En revanche, la Bible nous dit que oui, il y a des situations où on sèmera avec larmes. Néanmoins, nous avons la responsabilité de ce que nous voulons récolter. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est sa moisson, son plan dans notre vie. Et il est dit que si quelqu'un est capable de sélectionner les graines qu'il va semer, s'il est capable de sélectionner les graines qu'il va semer, la Bible dit que c'est quelqu'un qui est mature. C'est pas celui qui nous distribue des versets bibliques de A à Z pour nous montrer qu'il sait quelque chose. C'est celui qui sait sélectionner les graines quand il a des raisons d'être ébranlé. Le Seigneur n'est pas impressionné par notre connaissance biblique, mais il est impressionné par notre caractère. Il est dit que si nous bronchons tous de plusieurs manières, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si ton corps ne t'obéit pas, tu as besoin de parler sur ton corps. Ton corps ne devrait pas être comme un cheval sauvage. Il y a des gens qui sont esclaves de leur passion. Je répète, il y a des gens qui sont esclaves de leur passion. Et ça ne va pas, ça. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas, ça. La Bible nous dit comment sont venues ces passions, ces mauvais désirs. Des paroles qui ont été prononcées. Des pensées qui ont été acceptées. Et aujourd'hui, c'est l'esclavage. Vous savez, un esclave, ça finit par se voir. C'est-à-dire, la semence qui a été semée dans les pensées, un jour sera visible aux yeux de tous. Et la Bible nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons montrer la gloire de Dieu. La pauvreté se voit, mes amis. Vous savez, la pauvreté n'a rien à voir avec la marque des vêtements. La pauvreté n'a rien à voir avec les chiffres que l'on lit sur un compte en banque. La richesse n'a rien à voir avec la marque des vêtements. C'est quelque chose que l'on porte. Et ce que l'on porte a à voir avec ce que nous disons de nous. Ah, on veut vivre comme un chrétien dans ce monde-là ? On est en train de pratiquer la parole de Dieu pour ne pas être surpris quand on arrive là-haut. Il y a des chrétiens. La différence entre leur vie ici et leur vie là-haut, mais ils vont se prendre un choc culturel. Ils vont se prendre un choc culturel. Je pense que certains, il va falloir qu'ils aillent dans un sas d'adaptation. Ça existe, hein, qu'on les place en quarantaine. Je ne sais pas si ça existe là-haut. Qu'on leur fasse passer la porte, on les place en quarantaine. On dit, tu sais, ici on vit libre, ici on vit bien, ici on vit en paix, ici on vit riche, ici on vit libre, ici... dans la joie, la paix. Et une fois qu'ils auront renouvelé leurs idées dans ce sas-là, pendant peut-être ces 40 jours, les savoirs, il y a 40 jours qui sont parlés dans la parole de Dieu, eh bien on leur dira, ouf, ça y est, allez maintenant, on sait que tu ne vas pas te prendre une crise cardiaque en rentrant pleinement dans le royaume de Dieu, donc vas-y rentre. C'est ici-bas qu'on doit pratiquer. C'est ici notre sas. C'est la terre notre sas. C'est ici que nous apprenons la mentalité du ciel. C'est ici que nous apprenons qui nous sommes. Il est dit que celui qui ne bronche point en parole tient tout son corps en bride. Si ton corps te cause des problèmes, quels qu'ils soient, parle-lui. Parle-lui, sème dans ta vie. Et ensuite, il est dit, si nous mettons le mort, dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Juste un mort dans leur bouche, on tire dessus, et vous avez, c'est quoi? 500 tonnes, 400 tonnes, 500 tonnes? Combien? Kilo, 500 kilos, oui. Une demi-tonne. Les chiffres et moi, c'est pas... Amis visiteurs, tout le monde sait que les chiffres, c'est pas mon truc. Donc, il est dit, voici les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Image numéro 5. Voilà, ça c'est un gouvernail. Ce gouvernail-là, la Bible nous dit qu'en fonction de la direction qu'on lui donne, vers laquelle il se tourne, il va diriger le bateau. Image suivante. Alors on peut voir que, franchement, un gouvernail n'est pas très grand hein, par rapport, image suivante, à la taille du bateau. 500 tonnes, dit Pasteur Marc, d'accord. Voilà, le gouvernail que l'on a vu est proportionnellement très petit. Et ce gros bateau de croisière va où il veut, va où le pilote veut l'amener. Ici, cette version dit, voyez aussi les bateaux, si grands soient-ils, écoutez bien, et si rudes les vents qui les poussent, on les mène avec un tout petit gouvernail là où veut aller celui qui tient la barre. C'est-à-dire, c'est très simple, un bateau n'arrive pas à sa destination parce qu'il a été ballotté par les vents, poussé par les vents, à cause des courants qui sont forts. Le bateau arrive à sa destination tant que celui qui tient la barre reste dans la direction où il veut l'amener. Il faut un tout petit bonhomme ou une toute petite femme aux manettes. Donner une direction au gouvernail. La Bible dit que ta langue est le gouvernail de ta vie. Ta vie va uniquement dans la direction dans laquelle tu as parlé. Personne d'autre. La Bible dit, même les vents puissants, même la tempête ne peut pas amener un bateau n'importe où. Ah, bien sûr qu'il y a des moments où c'est chahuté, et par moments la tempête souffle. Néanmoins, si tu restes le capitaine à bord, au lieu de laisser les eaux être influencées par ce que les autres disent, parce que la maladie est en train de te dire, pas les douleurs, elles parlent fort quelquefois. Mais qui est celui qui tient la barre de ta vie? Les douleurs? Ton banquier avec ses paroles? Ou toi? Alors Dieu a un plan. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu est celui qui a un rêve pour nous. C'est pour cela que Dieu a mis des talents en nous. Et nous allons atteindre chacun la destinée de notre vie Non pas parce que nous avons les diplômes qu'il faut, et même si, vous savez combien je suis pour l'éducation, pour la formation. Étudier, 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 on devrait tous continuer à étudier. Mais nous n'arriverons pas à notre destinée grâce à nos diplômes, nous n'arriverons pas à notre destinée grâce aux bonnes relations et aux contacts que nous avons, nous n'arriverons pas à notre destinée grâce à la somme d'argent que nous avons sur notre compte ou à ce que nous léguerons nos parents, nous allons atteindre notre destinée parce que nous sommes aux commandes de notre navire. Parce que nous, chacun de nous, ensemence son champ avec des paroles de vie. C'est-à-dire que notre destinée représente notre moisson. Le rêve de Dieu représente la moisson qu'il veut avoir de notre vie. C'est-à-dire, personne ne pourra dire c'est la faute à pas de chance. Personne n'a besoin d'être une victime. Oui, il y a des moments qui sont difficiles. Oui, il y a des choses difficiles. Il y a des situations dans lesquelles on ne s'est pas mise et dans lesquelles quelqu'un nous y a mis. Ou il y a toutes sortes de difficultés sur cette terre. Le dernier mot, c'est nous qui le donnons. La fin, c'est nous qui la déclarons. Dis à ton voisin, je déclare la fin. Aucune situation n'est trop grande pour mon Dieu. Aucune situation n'est trop difficile pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie, et elle engloutit la mort. Je mets la parole dans ma vie. Je donne une direction à ma vie. Parce que Dieu veut obtenir une moisson de ma vie. Gloire à Dieu. Eh bien, je vais vous laisser méditer sur ces paroles et